Parfait. Donc, puisqu'il est l'heure, donc Catherine Despeux nous fait plaisir pour la troisième fois de venir faire une conférence au Donjosène de Paris. Les deux premières séances étaient consacrées aux origines du bouddhisme en Chine et aux origines du Chan en Chine. Et puis là, maintenant, on va focaliser davantage sur une forme du Chan, Shaodong, que nous on prononce Soto, puisque c'est comme ça qu'on le connaît sous sa forme japonaise, qui a importé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, dans les années 1200, qui a importé cette forme de bouddhisme au Japon, grâce à Maître Dogen, qui a fait ce travail, et puis qui a ensuite développé l'école Soto au Japon. Donc là, Catherine est une experte de plein de choses en fait, la langue chinoise, hein, que tu enseignes à haut niveau, que tu enseignes à haut niveau dans les universités et les instituts, enfin, tout ce qu'il y a de
non,
mieux.
Non, c'est fini, je
c'est fini,
retraite.
Voilà, bon, retraite. Bon. Retraite. Deuxièmement, du taoïsme, tu as écrit beaucoup de livres sur le sujet. Et troisièmement, du Chan. Et le Chan, pour l'avoir étudié dans ses textes, et aussi pour le pratiquer. Et pour le pratiquer, ben, ici, en France, peut-être aussi ailleurs en Europe, et puis en Chine, directement là où se trouvent les monastères Chan encore existants aujourd'hui. Alors quand j'ai appris ça, pour moi c'était un peu une surprise, j'imaginais que le Chan n'existait plus. Puisque une des versions de l'histoire qu'on entend ici, c'est qu'il a dépéri, et puis il est rené de ses cendres, mais sur un autre endroit, au Japon. Eh ben non, il n'est pas mort. Alors, avant qu'on entre dans la matière de ta conférence, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce que c'est que ce Chan d'aujourd'hui. Où il se pratique, dans quel contexte, comment sont les relations maître-disciple. Tu peux nous donner un peu de ton expérience là-dessus?
Alors, c'est effectivement une des...
Il y a un doublage son,
fait
là.
Des travaux,
hein? Ben non. Les voisins, oui.
Ce sont les voisins qui font ça. C'est effectivement une idée reçue qui est à la vie dure et qu'il est intéressant de dénoncer. C'est cette idée que en Chine, la religion aurait été, d'une manière générale, aurait été bannie lorsque, en 1912, la Chine est devenue une république, donc a quitté son ancien système. C'est vrai que, dans son désir de modernisation, elle a souhaité aller vers une laïcité sur le modèle occidental. Et que, à l'époque, le Kuomintang, qui était le parti le plus important, a confisqué les temples pour en faire des écoles. Enfin, c'était dans tout ce mouvement-là. Néanmoins, entre le désir officiel et la réalité, il y a une marge. Et ce que nous, on appelle religion, a continué à être pratiqué en Chine, parce que c'est très lié à la structure sociale et que ça a des implications sociales très importantes. Et lorsque Mao a pris le pouvoir, il a été le premier à vouloir refaire des associations religieuses et à mettre dans la Constitution que le gouvernement, l'État, était responsable des activités religieuses.
Et ça, c'était dans les années 60, alors?
Ça, c'est dans les années 50, 54 ou 57.
D'accord.
Donc très vite, puisqu'il a pris le pouvoir en 1949, et très rapidement, il a souhaité établir ces associations. La première étant d'ailleurs l'association bouddhique, avant l'association taoïste, pour diverses raisons, et notamment le fait qu'il y a en Asie tous les fidèles d'Asie, notamment du Japon, qui depuis très longtemps voulaient aller en pèlerinage en Chine et ont beaucoup fait aussi pour disons un renouveau du bouddhisme par des dons extraordinaires en venant à pèlerinage, etc. Alors ces associations sont à tous les niveaux. Niveau national, provincial et local. Et évidemment, il y a dans ces associations des membres du parti et des religieux, hein, qui vont travailler ensemble. Donc c'est une arme à double tranchant, puisqu'il y a un contrôle, une mainmise, qui fait que la religion, et notamment le bouddhisme Chan, va être contrôlée dans les structures qui vont être appliquées. Mais c'est aussi l'occasion pour ces religieux de pouvoir à nouveau pratiquer. Donc cet aspect religieux a toujours existé, sauf pendant cette période cruciale de la révolution culturelle, qui a duré de 1966 à 1976, hein, en gros jusqu'à la mort de Mao, où à cette époque-là, évidemment, les activités religieuses ont été absolument mises sous le boisseau. Les moines ont dû retourner à la vie laïque, donc ça a été une parenthèse très importante. Et à partir des années 80, la Chine à nouveau a ouvert très largement aux activités religieuses. Et toute activité religieuse est donc contrôlée par le gouvernement, c'est-à-dire que tout monastère, toute personne doit être inscrite officiellement auprès de ses bureaux.
C'est-à-dire donc, qu'on peut s'inscrire à une seule religion, à plusieurs, comment ça se passe ?
On s'inscrit à une seule religion.
Une seule, voilà, il faut faire Absolument. Son choix, et à quel âge on le fait, comment ça...
Ah ben, on le fait dans la mesure où on fait partie d'une institution religieuse. C'est pour ça que les chiffres ne veulent rien dire, parce qu'un laïc peut très bien faire un syncrétisme, être à la fois taoïste, bouddhiste, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui est en jeu ici, ce sont les institutions religieuses. Donc dans ce cadre-là, il y a deux branches principales du bouddhisme qui se sont à nouveau développées, l'école de la terre pure et l'école du Chan. L'école du Chan donc, a été renouvelée d'une part parce que les grands monastères ont à nouveau reçu donc, des dons des fidèles japonais ou des pays, des Chinois d'outre-mer ou des pays d'Asie du Sud-Est, mais essentiellement pour le bouddhisme Chan du Japon et des Chinois d'outre-mer, et que les grands centres bouddhiques ont été à nouveau restaurés, même parfois avec une magnificence supérieure à ce qui existait auparavant. Donc avec cette idée que vraiment ce soit des lieux importants, symboles de l'activité du Chan.
Et là, c'est encore les donateurs particuliers qui financent.
Absolument. Mais ce qui est nouveau et ce qui est remarquable, c'est que le Chan, c'est surtout, dans son renouveau, c'est surtout diffusé dans les milieux laïques et dans des formes laïques. Et moi, par exemple, le Chan que j'ai travaillé, je l'ai appris avec un personnage qui s'appelle Na Huaijin, qui était un laïc. Qui était un laïc, mais qui avait eu comme maître un maître Chan, lui aussi laïc, donc au début, dans les années, qui est mort dans les années 72, je crois. Et cette forme de bouddhisme laïc, notamment pour le Chan, est très importante et se développe de plus en plus en Chine.
Laïc au sens de opposé à monastique,
laïc opposé à monastique, voilà.
D'accord, donc il n'y a pas l'application de toutes les règles du Vinaya chinois quand on pratique le Zen.
Il y a l'application des règles pour les laïcs.
Des règles pour les laïcs, voilà.
Absolument.
C'est le paquet laïc.
C'est le paquet laïc, okay. Mais pas les règles des monastères, des moines et des moniales. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, il y a à peu près une dizaine de grands monastères dans les villes. Donc, à Pékin, à Xiamen, à Shanghai, à Chengdu, à Wuhan, à Xi'an, enfin, dans la plupart des grandes villes, il y a ces grands monastères qui sont donc des monastères boutiques qui vont avoir une face extérieure avec toutes les divinités que les laïcs viennent prier, avec de l'encens, etc. Tout l'aspect, je dirais, plus populaire du bouddhisme. Et à côté de cela, la pratique des moines et des moniales, qui se fait soit individuellement dans leurs cellules, soit dans ce qu'on appelle le chantang, donc
C'est le dojo chez vous non,
cette... On dit dojo, nous, ouais.
Vous dites dojo, ouais. Voilà.
Chantang.
Chantang, c'est-à-dire Chantang. La salle dans laquelle on pratique le chan, dans laquelle on pratique le zen, où les personnes sont disposées donc en carré, avec au centre une divinité ou autre chose, ou rien du tout, parfois. Et dans ces grands monastères, il y a une séparation, évidemment, entre les hommes et les femmes. Donc il y a des grands monastères pour femmes, il y en a moins que pour hommes, mais il y en a au moins trois, dont un que j'ai visité donc, à l'automne, où il y a à peu près 150 moniales qui habitent en permanence. Il y a une école, il y a un institut d'études bouddhiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'avec le renouveau du bouddhisme à partir des années 80, les instituts d'études bouddhiques, où se forment, où sont formés donc ces religieux, se sont à nouveau développés. Et donc ils mènent la vie normale du religieux, avec tous les préceptes à observer, avec des cérémonies qui suivent le calendrier rituel du bouddhisme, donc des obligations aussi par rapport à la société laïque, qui va leur demander par exemple des cérémonies pour un défunt, pour un problème, etc. Et à côté de cela, leur pratique individuelle. Donc la pratique individuelle, elle est au fond laissée en grande partie à l'appréciation de chacun qui, le matin ou le soir, dans sa cellule, va pratiquer ou non.
Dans sa cellule, pas dans le Chantang.
Si, alors dans le Chantang, il y a tous les matins et tous les soirs, normalement, une pratique. Mais ce que j'ai observé, c'est que certains n'y vont pas. Enfin, il y a une certaine souplesse dans l'obligation d'aller ou pas dans le Chantang. Et cette souplesse, elle dépend aussi des fonctions de chacun. Ceux qui ont des fonctions administratives ou importantes, des tâches très importantes ou très lourdes, peuvent être pas exonérés, mais enfin peuvent échapper, s'ils le veulent, à cette obligation qui est notamment une obligation, théoriquement c'est une obligation.
D'accord.
Et à l'entrée du Chantang, donc, il y a la règle de tout ce qu'il faut observer quand on entre dans le dojo et comment on fait. Alors, par contre, là où il n'y a pas d'échappatoire, c'est pour les retraites de 3 mois. Et il y a, alors tous les grands monastères Chan ne le font pas, mais j'en connais au moins 5 qui le font régulièrement, et c'est une retraite qui se fait en général à l'automne.
Ce que nous on appelle Ango.
Voilà. Et donc là, ils s'enferment, donc ils restent reclus dans le dojo, ils habitent, ils dorment dans le dojo, ils restent, pendant cette période, ils restent dans le dojo, en méditation.
Ils méditent dans le dojo, ils n'utilisent plus leur cellule individuelle, du coup,
ils
déplacent leurs affaires,
ils ont un minimum vital, donc le bol, l'habit, enfin il y a un certain nombre d'objets qui sont autorisés, la nourriture est faite par des gens extérieurs, ils restent enfermés pendant dans le dojo.
Alors ça c'est surprenant, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas même pour une promenade.
Non, ils ne sortent pas. C'est une pratique intensive, du matin au soir, il y a à peu près 5 ou 6 séances dans la journée. Et entre les séances, évidemment, la marche pendant laquelle l'exercice du chan et la concentration continue.
Est-ce que c'est ce que nous on appelle le kinin? Je ne sais pas si tu l'as vu dans le dojo.
On marche dans cette
position-là.
Alors non, alors eux, ils marchent, c'est la marche militaire. On marche comme ça, voilà, mais en étant concentré.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et on fait combien de fois le tour du dojo? Juste une fois ou...
Ah non, ça dure pendant 20 minutes.
Oh d'accord.
Non. C'est une le principe de base, c'est que après l'exercice de la concentration dans l'immobilité, on fait exercice dans le mouvement. Puis bon, c'est aussi pour faire pour faire travailler un peu le corps, mais le principe c'est ça. Donc théoriquement aussi, c'est dans le silence. Il n'y a pas de, on ne parle pas.
Même le maître ou celui qui dirige, je ne sais pas s'il y en a un.
Alors dans ces pratiques, il y a en général 1 ou 2 sessions qui sont l'après-midi, qui sont consacrés à un enseignement général du maître. Mmh. Et très souvent, tous les monastères ne font pas ça, mais très souvent, ils prennent un sutra ou un texte de base qui va être commenté par le maître pendant cette session. À côté de ces formes monacales, les formes laïques sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire qu'il y a des très riches chinois qui vont monter des dojos dans les grandes villes, à Shanghai, partout, et qui vont enseigner à des laïcs.
D'accord, c'est une deuxième forme.
C'est une deuxième forme qui prend de l'ampleur et qui est plus importante même que la forme monacale. En tout cas, en nombre, il y a beaucoup de laïcs qui pratiquent de cette façon-là. Donc, les centres se multiplient, il y en a énormément. Hein. Et ce qui est aussi nouveau, enfin en tout cas ce qui commence aussi à devenir important, c'est les liens de plus en plus importants entre les monastères Chan et les laïcs. C'est-à-dire que de plus en plus, les monastères Chan vont organiser des sessions, en général de 7 jours, de méditation, où laïcs et religieux vont être mélangés, et où hommes et femmes vont être mélangés. Quand j'étais en Chine à l'automne, j'ai participé comme ça à une session de 7 jours qui était organisée par une nonne qui a un monastère Chan dans, à 150 km de Shanghai, donc un monastère de nonnes dans lequel elle fait un enseignement. Enfin, bon, elle est la responsable de ce monastère, et à côté de cela, elle a un lieu qui a été donné par un laïc où elle fait régulièrement, à peu près au moins deux fois par an, deux à trois fois par an, des sessions de 7 jours de méditation. Donc ça se fait en général autour de la fête nationale au 1er octobre, parce que les Chinois ont des vacances, et autour du Nouvel An chinois, parce qu'ils ont aussi une semaine de vacances.
Voilà. Ok.
Alors, j'ai parlé des grands monastères Chan, il y a aussi des monastères moins importants, qui sont ceux des montagnes, c'est-à-dire les anciens sites de Chan, qui historiquement étaient... jouaient un rôle important et qui sont à nouveau restaurés. Mais, alors là, eux aussi vont essayer de faire venir des laïcs pour pouvoir non seulement développer le Chan, mais aussi du point de vue économique, avoir une ressource supplémentaire.
Alors eux, ils vivent comme des petits monastères, avec les mêmes disciplines, matin, soir, zazen obligatoire, sauf exception, 3 mois enfermés dans le dojo, etc.
Alors ça dépend des monastères.
D'accord.
Parce que pour l'instant, ces monastères, enfin ceux que j'ai vus, j'ose pas parler de manière générale, la Chine est tellement grande que je connais pas tout du Chan, mais ce que j'ai vu, pour l'instant, il manque de personnel. Mmh. C'est-à-dire que pour des monastères immenses, ils vont être 6-7 moines qui vont tirer ça à bout de bras et qui sont en train de faire en sorte qu'il y ait un renouveau, mais là, ils en sont à leur début. Donc ça, c'est pas comparable aux grands centres monastiques des villes.
Enfin, oui, ça, c'est ce qu'on appelle Shaolin, il y a uniquement des arts martiaux.
Pas du tout, pas du tout. Alors Shaolin est un bon exemple, justement, de cette double face de ces monastères. Parce que moi, j'ai visité Shaolin dans les années 80, donc dans le renouveau. Il y avait un bâtiment délabré, et des artisans qui étaient en train de tout reconstruire. Maintenant, il y a au moins 7-8 bâtiments, c'est quelque chose d'immense, et autour de cela, des centaines d'écoles d'arts martiaux, à tel point que, à la fois, les gens du Shaolin et le gouvernement ont essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que tout le monde va utiliser l'enseigne Shaolin, il y avait même une usine de jambon du Shaolin. Donc là, les moines ont protesté en disant « mais non, vous n'avez pas le droit ». Mais ils ont beaucoup de difficultés à faire en sorte que ça ne soit pas commercial. Bon, cela dit, ça les arrange aussi qu'il y ait tout ce côté commercial. Néanmoins, le Shaolin, il n'y a pas de problème parce qu'il y a justement tous les fidèles japonais qui viennent. Alors quand vous visitez le Shaolin, vous ne verrez rien de ce qu'est vraiment la vie d'un moine du Shaolin. Parce que tout se passe derrière. Donc sur les côtés, quand vous rentrez dans les temples chinois, vous avez des cours successives et des bâtiments successifs. Et de chaque côté, sur la droite et à gauche, vous avez des allées qui sont fermées au public, où vont se trouver les bibliothèques, les habitations des moines, etc. Et derrière, vous avez le chantang, le dojo, dans lequel ces moines pratiquent la méditation. Et il y a un certain nombre de moines du Shaolin qui ont une pratique régulière, intensive, et qui ont vraiment une quête spirituelle. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que de tout temps et dans tous les monastères, ceux qui s'adonnaient vraiment d'une manière intense à cette pratique, aux azèdes, à la méditation, n'ont jamais été la majorité. Il y avait simplement une partie des moines du monastère qui faisaient ça. Et une des difficultés à l'heure actuelle pour ces moines, c'est que, comme ils sont sous le contrôle des associations officielles, ils ont sans arrêt des réunions pour rendre compte, pour ci, pour ça. On leur donne des tâches administratives. C'est difficile de savoir si le gouvernement le fait exprès ou pas, mais en tout cas, ils se plaignent beaucoup d'être un petit peu mangés ou entravés dans leur pratique par toutes ces obligations. Mais ça, alors, les arts martiaux du Shaolin, c'est une escroquerie. Parce que, historiquement, le temple Shaolin où se sont développés les arts martiaux du Shaolin, c'est pas le temple Shaolin du Renan. C'est un temple qui était dans les provinces sud de la Chine, la province du Fujian, un temple qui se trouvait à Putian, qui s'appelait aussi Shaolin Se. Et c'est là qu'il y avait une tradition, donc un petit temple plus de campagne, où il y avait une tradition d'arts martiaux très importante. Et c'est en plus un temple qui était lié à tous ces mouvements de petites sociétés qui fleurissaient dans ces années-là et qui étaient assez proches des triades ou de ces sociétés qui à l'époque avaient un peu le rôle de rondasseurs de Thor, donc de ces gens qui pratiquaient les arts martiaux aussi pour défendre les villages, qui formaient les milices qui défendaient le peuple. Mais il y a eu très rapidement une confusion entre ce temple Shaolin et le Shaolin originaire du Zen, d'où est originaire le Zen, et bien sûr maintenant c'est ce temple Shaolin qui règne sur les arts martiaux du Shaolin.
Parce que le temple, alors, le temple d'aujourd'hui, connu comme étant Shaolin, restauré, où il y a tous les touristes qui vont et toutes ces écoles d'arts martiaux, c'est là où était effectivement l'origine du Zen.
C'est là où Bodhidharma serait arrivé et serait resté, selon la légende.
Alors que le Shaolin, où se développaient tous ces redresseurs de Thor, c'était complètement au sud de la Chine.
Complètement au sud, ça n'a rien à voir.
D'accord. Donc il y avait...
Et c'est le temple Shaolin des arts martiaux, il apparaît au XVIIe siècle. Donc ça n'a rien à voir.
Bien après, quoi.
Bien après. Mais l'histoire a été reconstruite pour faire en sorte que les arts martiaux, que le temple Shaolin de Bodhidharma soit lié aux arts martiaux beaucoup plus tôt. Mais on sait très bien que c'est une reconstruction historique. Donc voilà.
D'autres questions ou compléments que vous aimeriez avoir au sujet de la réalité du Chan ? Anne ?
Concernant concernant la vie dans les temples, j'avais rencontré une nonne chinoise du Zen et qui avait dit que dans son temple en Chine, il récitait des sutras pendant une heure le matin. Voilà. Donc ça, ils appartiennent à la catégorie, à quelle catégorie ? Parce que vous avez parlé de méditation, mais donc ça fait partie de...
Ça fait partie, absolument. Oui, ça fait partie de la liturgie quotidienne qui a lieu le matin et le soir en général.
Voilà.
Oui, quotidienne. Et là,
les textes récités sont pratiquement imposés de manière nationale. C'est-à-dire qu'il y a des petits livres avec toutes les prières, c'est-à-dire hommage aux trois joyaux, très souvent, voilà, le sutra de Guan Yin, le sutra du cœur, le sutra du diamant, enfin bon. Mais ça, c'est pratiquement imposé nationalement et partout. Vous allez avoir la même liturgie le matin et le soir, et ça fait partie effectivement de leur vie de religieux, bien sûr.
Ah oui.
En général, c'est 40 minutes.
Ah si, 40 minutes.
Oui.
Puis,
ça dépend.
Marche rapide.
Ça dépend parce que le matin et le soir, quand les gens vont dans le dojo. C'est libre, c'est-à-dire qu'ils y vont quand ils veulent, ils en repartent quand ils veulent et ils restent le temps qu'ils veulent.
Pendant la séance, on peut rentrer, s'asseoir et repartir avant la fin.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une période entre 6h et 7h30, en temps général, ou même un peu plus, où, en général, tout le monde se retrouve. Mais les gens peuvent y aller n'importe quand dans la journée.
Ah, d'accord. En dehors de la période de 6h à 7h30,
voilà. Ils peuvent en dehors de la période du matin ou du soir, où c'est fixé, et bon, en général, ils le font ensemble, on peut y aller n'importe quand. Et ceux qui sont concentrés, qui ont envie de rester 2h, 3h, 4h, ils restent autant qu'ils veulent.
D'accord.
Voilà. Donc, cette durée de 40 minutes, c'est pour les séances organisées, soit de 7 jours, soit pendant les retraites de plusieurs mois. Dans ce cas-là, le principe, c'est 40 minutes assis, 20 minutes debout. Cela dit, quand une personne, au cours de ses séances, est bien concentrée ou a une expérience intérieure intéressante, elle peut ne pas se lever.
Elle reste assise pendant
que
les autres cours.
Absolument. Voilà.
Et même après la fin de la séance, quand tout le monde est sorti, elle peut rester assise.
Elle peut rester assise aussi.
Ah, d'accord, ouais, on ne verrait pas ça chez nous.
Voilà. Non, ça c'est. Ça dépend tout à fait de.
Ouais.
Voilà. Alors, le. Je crois que tu me. Je sais pas, je crois que tu m'as posé la question de l'enseignement.
Oui, 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 s'il y a des coussins.
Alors, l'enseignement, donc en général, c'est l'après-midi.
Hein. Oui, c'est ça.
Voilà. C'est l'après-midi. Mais cela dit, ça peut être aussi, c'est-à-dire si quelqu'un a une question à poser, il demande à ce moment-là à voir le maître et à poser la question. Donc il y a aussi un lien très important de maître à disciple qui se fait, mais faut, en général, il faut vraiment que ce soit une question importante et on n'y va pas comme ça n'importe quand. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que pendant ces séances de méditation dirigée, en dehors de la période qui va être consacrée à un enseignement doctrinal ou théorique, bien sûr, le maître peut observe et peut rectifier soit la position, soit l'état de concentration, soit donner une indication à une personne en particulier sur son état de concentration.
D'accord. Est-ce qu'il utilise le kyosaku ?
Pas beaucoup.
D'accord, mais ça existe et c'est
disponible. Ça existe et c'est tout à fait disponible, c'est utilisé. Je sais que dans le. Oui, dans le. Yunzushan, ils l'utilisent pas mal.
D'accord.
Ils l'utilisent, ils ont aussi un. Alors, dans la marche, il y a un chasse-mouche qui sert à. Soit à accélérer la marche, soit à la ralentir.
Ah, c'est ça la fonction du chasse-mouche.
En partie, oui. Ah, en grande partie, ça sert donc pendant ces marches. Et il y a aussi une planche de bois avec un maillet sur lequel le maître peut taper à un moment donné pour stopper la marche.
Ok. Ouais. Comme nous, on utilise la cloche.
Donc là, il faut s'arrêter. Évidemment, bon, en général, c'est au moment où on ne s'y attend pas que ça tombe. Et voilà.
Jean, alors, il y avait Jean-Louis qui avait un droit de suite sur sa question précédente. C'est une autre question. Alors, on la note, mais
je la note,
il y avait, oui. il y avait Anne, alors, tu voulais poursuivre sur ta question précédente.
Si tu permets, Jean-Louis, une toute petite question, s'il vous plaît. La journée du moine commence à quelle heure?
Elle commence à 4h30.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Avis aux amateurs.
Enfin, je ne sais pas si c'est partout pareil, là, mais... Le temple de nonnes où j'étais là à l'automne, ça commençait à 4h30.
Ok. Alors peut-être la question de Jean-Louis.
Et ça finissait à 10h, ça finissait à 22h.
22h. Voilà. Alors la question de Jean-Louis sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette distinction dans le Chan renouveau, hein, Soto Rinzai?
Je pose la question parce que vous avez pris qu'un match rapide, c'est plutôt Rinzai que Soto, par exemple.
Oui, je crois que la distinction, elle va peut-être revenir, mais pour l'instant, elle n'est pas très nette. Elle n'est vraiment pas très nette. C'est... Parce que le temple de... C'est beaucoup plus, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus une question de rapport maître-disciple, je dirais. Donc, par exemple, le temple de Non où j'étais, son maître était un maître du Chan Rinzai. Donc, elle continue plus ou moins cet enseignement, mais c'est un Rinzai très simplifié par rapport à ce qu'il a pu être. C'est-à-dire que l'usage du koan, par exemple, est réduit à presque rien. Il y a un koan qui est donné dans le temple pour tout le monde et sur lequel il s'exerce régulièrement. Et pour l'école Soto, eh bien, le temple, les deux temples d'origine de ses maîtres sont pour l'instant en reconstruction. Donc il n'y a pas tellement d'enseignement, à part cet enseignement de méditation qui est assez basique. Voilà. Mais. Pardon ?
En méditation, ils sont tournés vers le mur ou vers le centre du dojo ?
Ils sont tournés vers le centre du dojo et le soto aussi. Enfin, ce que j'ai vu, c'est tourné vers le centre.
Ils sont pas près du mur, ils sont plutôt vers le centre ?
Oui, ils sont vers le centre. Donc en général, c'est en carré, hein, ouais. Et ils sont tournés vers le centre.
Ok, merci. Ben, je propose qu'on change de séquence. Alors, Didier est arrivé, donc tu peux te rapprocher. Didier Kowarski, qui a travaillé avec quelques-uns d'entre nous dans ses ateliers d'études collectives, qui nous a fait un résumé des entretiens de Matsu, la dernière fois. Et alors, qui arrive avec une question brûlante, c'est « Mais le taoïsme ?» C'est quand même quelque chose de très très proche avec le Chan, et puis il y a des connivences, il y a des complicités. Là, il y a besoin sans doute de clarifier les choses.
Dans le texte que vous nous avez fait passer, là, de Chao Shan, je ne sais pas comment ça se prononce, tout le premier paragraphe, c'est quasiment littéralement le premier poème du Tao Te Ching. Alors, lui, donc, Tao Chan, c'est à partir de lui qu'il y a la séparation Soto-Rinzai qui apparaît, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même assez tard, c'est le 9e siècle, c'est le milieu du 9e siècle. Donc, il me semble que dans vos conférences précédentes, vous avez expliqué qu'en fait, le bouddhisme est arrivé dans un pays où la pratique, c'était le taoïsme. Pratique principale, c'était le taoïsme, donc forcément il y a eu fusion. Alors, est-ce que un maître de cette envergure calque un enseignement sur un poème du Tao Te Ching? Est-ce que c'est par habitude de pratique, ou est-ce que c'est parce que véritablement les deux spiritualités sont délibérément mélangés, mis en œuvre?
Alors, je vais peut-être d'abord rappeler ce que c'est que le taoïsme.
Ah, ça c'est pas mal ça.
Le taoïsme, on distingue en Chine deux sortes de taoïsme. On pourrait dire le taoïsme des penseurs, des écoles philosophiques, donc, dont le représentant principal est Lao Tzu, qui a écrit ce livre de la voie et de la vertu, qui est une base pour le taoïsme, qui a influencé toute la civilisation chinoise, toute la culture chinoise. On ajoute parfois à ce personnage Guangzhe, qui est aussi un peu dans les mêmes idées, qui développe les mêmes idées philosophiques. Bon. Mais en fait, à partir du 1er siècle, 2e siècle, à partir du 2e siècle, s'est développée en Chine une religion taoïste. Et cette religion taoïste est formée à la fois du substrat de la religion, je pourrais dire, indigène chinoise, qui était une religion dans laquelle le sacré était partout, hein, avec des divinités dans les arbres, dans le soleil, dans la lune, etc. Des divinités, des personnages historiques qui avaient existé et qui étaient des saints, donc qui devenaient des divinités. Mais ce taoïsme, très rapidement aussi, a été confronté au bouddhisme dans l'histoire. Il y a eu des rivalités qui étaient souvent des rivalités d'intérêts, d'enjeux, mais aussi des rivalités philosophiques. Et donc, dans ces rivalités, il y a eu un enrichissement et une interaction entre le taoïsme qui a pris beaucoup au bouddhisme, et notamment au bouddhisme Chan, et le bouddhisme qui, lui aussi, arrivé en Chine, s'est sinisé et a été teinté par le taoïsme et aussi le confucianisme. Vous voyez, dans les textes que je vous ai donnés, les questions de piété filiale, bon, qui est une vertu très importante dans le confucianisme.
Oui,
c'est le premier point.
La piété filiale qui a engendré une relation particulière dans la lignée maître-disciple en Chine, peut-être, ou c'est complètement indépendant cette...
Non, moi je dirais pas ça comme ça. Non, c'est une qualité qui est une qualité de rapport entre le père et le fils.
D'accord.
Alors, ce qui est vrai, je crois que ce que tu veux dire, c'est que comme c'était difficile pour un Chinois de penser qu'on sortait d'une structure familiale, le bouddhisme et le moine, en fait, qui dirige le monastère, est devenu le père. Le père spirituel, donc on retrouve cette idée d'un rapport de maître à disciple qui est un rapport de père à fils.
D'accord.
Avec l'importance de la piété filiale, etc. Pour en revenir à ce problème du taoïsme et du Chan, quand le bouddhisme est arrivé en Chine et qu'il a fallu le traduire, les premiers traducteurs ont utilisé des termes qu'ils connaissaient pour traduire des notions qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ils ont puisé beaucoup dans le vocabulaire taoïste. C'est ainsi que dans les premiers textes, le Wu Wei, qui est une qualité importante dans le taoïsme, c'est le non-agir, cette idée que les choses marchent très bien spontanément et qu'il ne faut pas intervenir. Ce Wu Wei, ce terme, a été utilisé dans les textes bouddhiques pour traduire l'idée de nirvana. Et il y a beaucoup d'autres exemples.
De nirvana, pas de vacuité.
Non, pas de vacuité. Le Wu Wei. Voilà. Et... W-U-W-E-I.
Mais non, en chinois. Ah. Alors, ça, je peux l'écrire comme ça, mais pour le reste, je t'espère.
Vous voulez en simplifier ou en simplifier ?
Simplifier pour moi.
Simplifier. Voilà. Et je vais vous faire mon simplifier parce que c'est moche, le simplifier.
Ça ressemble à un poisson, ça.
Ah bon ?
C'est pas tout à fait poisson, mais ça ressemble un petit peu, et ça, je sais pas.
Ça, c'est un animal. C'est un scolopendre.
Un scolopendre.
Oui, avec plein de pattes.
Et que veulent dire les deux graphèmes, là ?
Eh bien, ouais, c'est faire, agir, intervenir, et vous, c'est ne pas. Sans.
C'est cool. D'accord.
Donc, c'est cette idée, c'est pas du tout l'idée de ne rien faire, c'est l'idée de que les choses... le cours des choses marche très bien et que dès que l'homme met son grain de sel, ça va mal. Donc l'idée, c'est de retrouver le contact avec l'origine du monde, l'origine de soi-même, l'origine de la vie, et de laisser cette origine œuvrer par elle-même.
D'accord. Et du côté japonais, on a quelque chose qui ressemble à ça dans le bar.
Voilà, c'est ça. Bon,
c'est cool.
C'est le mot muga.
Oui.
Et donc, agir, c'est seulement le deuxième...
C'est seulement le deuxième, oui, agir. Et vous, c'est non.
Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Yoko ?
Non, c'est exactement la même chose.
C'est le même concept.
Chine, ouais.
Voilà. Alors, cela dit, il y a évidemment des conceptions similaires dans le bouddhisme et dans le taoïsme. On va retrouver, moi je ne peux pas tout développer, on va retrouver cette idée de vide, de vacuité. Néanmoins, le vide dont parlent les taoïstes et la vacuité bouddhique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. On va retrouver dans le taoïsme cette idée que le langage, que la vérité, l'absolu, ne peut pas être exprimé parfaitement par le langage. Et donc que l'expérience mystique ou l'expérience de l'éveil est quelque chose qui est ineffable, indescriptible, bon, qui est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le bouddhisme. Bon. Cela dit, le bouddhisme Chan est profondément bouddhique. Et si vous lisez tous les textes fondamentaux du Chan, vous allez retrouver toutes les grandes notions du bouddhisme du Mahayana, notamment celles développées dans le Lanka Vatara Sutra, qui est un des sutras de base de l'école du Chan, avec cette idée de non-dualité, etc. Mais au fur et à mesure que le bouddhisme Chan va évoluer, il va se siniser de plus en plus et introduire dans sa théorie, les maîtres vont personnaliser, on pourrait dire, leur compréhension du Chan et vont faire des rapprochements entre des notions du bouddhisme et des notions du taoïsme, et donc donner une interprétation particulière avec une teinte particulière. C'est le cas des textes que je vous ai donnés. Vous avez l'impression que c'est du taoïsme. Alors moi, je dirais pas tout à fait ça. En fait, ce sont des textes qui s'inspirent beaucoup du Yi Qing, du livre des mutations. Voilà. Et le livre des mutations, c'est général à la culture chinoise, c'est pas uniquement taoïste. Mais quand ils vont parler, mais là on rentre peut-être dans les détails. Non.
Moi ça m'intéresse, alors, je vois plusieurs opinions du bonnet, donc c'est bon.
Donc il faut que je parle un peu de...
Bleu, noir.
Donc le texte en question, dans mon deuxième, c'est un texte qui développe une théorie qui a fait la notoriété de l'école Soto. Le premier avoir développé cette théorie, c'est Dongshan Yanjie, donc le premier des maîtres de cette école.
Que nous on appelle Tozan.
Tozan. Et le deuxième, le second, Sao Shanbenzi, a développé aussi cette théorie. C'est une théorie qui s'appelle la théorie des cinq positions. Les cinq positions, et ces cinq positions sont représentées par... que j'ai ça.
C'était les demi-cercles.
Oui, blanc. Voilà. Je cherche les cercles.
Voilà, voilà.
Non, c'est pas ça. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Donc il y en a un. Deux.
C'est les goïs, c'est ça? Les goïs.
4. Voilà. Et 5. Bon. Il y a deux termes pour le noir et le blanc. Il y a celui-ci qui désigne le terme chinois. Chinois, zhang désigne ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est dans l'axe, ce qui est orthodoxe, ce qui est complet. Et le terme tien va désigner ce qui est penché, incliné, ce qui est dévié, ce qui est partiel, partial. Ce qui n'est pas la totalité. À ces deux termes-là, Tozan en a utilisé deux autres qui correspondent. Au lieu de parler de l'axe, du centre, il va parler de Thune, le souverain. Et au lieu de parler de Kien, l'incliné, le dévié, il va parler de Chön, ministre. Et qu'est-ce que, dans cette théorie, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de voir les rapports entre ce qu'il va appeler l'axe, le centre, et le dévié, l'incliné. C'est quoi, ces deux choses-là? Bien, c'est en fait, il a cherché, par ses dessins, qui schématisent une pensée, il a cherché à expliquer, entre autres, une des questions, à donner une réponse à une des questions que Dogen s'était posée, c'est, puisqu'on dit dans le bouddhisme du grand véhicule que tous les êtres sont des éveillés, pourquoi chercher?
Ah oui, que Dogen s'était effectivement posé.
C'est une des questions.
Qui motivait son voyage vers la Chine.
Voilà, c'est une des questions fondamentales de Dogen qui a motivé son voyage pour la Chine. Il dit, mais alors, bon.
Et on l'entend encore aujourd'hui, en 2014, hein, à Paris, parfois. Ouais.
Bah, c'est une question essentielle, quand même. L'autre façon de concevoir ça, c'est de dire qu'il a essayé d'expliquer la relation entre, disons, l'absolu, la nature des veilles, la nature réelle des choses, et le monde ordinaire, le monde des phénomènes. Ou encore, la relation entre l'expérience ultime de l'éveil et le monde des phénomènes. Et il a utilisé donc des éléments chinois, puisque ces cercles-là ont été utilisés évidemment dans la pensée chinoise avec le noir et blanc pour distinguer le yin et le yang, et qu'on va retrouver les trigrammes et les hexagrammes dans les textes de Dongshan et Anji ou de Shaoshan Benji. Mais si vous regardez dans le bouddhisme, en fait, il y a des précurseurs à ça. C'est d'une part toutes les théories d'un maître qui était un maître Chan et un maître de l'Avatamsaka qui s'appelait Zongmi en Chine.
Zongmi.
Et avec toute cette idée, justement, du rapport entre l'absolu et le phénoménal, avec ce retournement de l'alaya vijñāna, c'est-à-dire cette idée que la huitième conscience, qui est la conscience qui supporte toute l'expérience phénoménale, doit faire un renversement pour qu'on arrive à l'éveil. Et ce renversement, cette explication du rapport entre le nouménal et le phénoménal, entre l'absolu et les phénomènes, avait déjà été expliquée en fonction d'une gradation de l'expérience, en fait, pendant la quête spirituelle. Et il y a aussi un autre élément qui est important, on peut considérer comme précurseur, c'est justement toute cette théorie de l'école de Royen, Kegon, hein, de l'école de l'Avatamsaka, avec ce rapport entre ce qu'on appelle en chinois le li et le che, c'est-à-dire l'absolu et les phénomènes. Où, dans l'Avatamsaka, les maîtres de cette école avaient mis au point un système de quatre gradations, quatre façons de concevoir le rapport entre l'absolu et les phénomènes. Donc, c'est quand même, le fondement, c'est quand même un fondement bouddhique. C'est quand même une pensée bouddhique qui est exprimée, mais qui va être exprimée à l'aide d'éléments connus des lettrés, de la plupart des gens de cette culture, et donc, à la fois enrichi de ces éléments taoïstes, et je ne dirais pas taoïste, d'ailleurs, ce sont des éléments de la culture chinoise, et il est évidemment que ça biaise aussi la compréhension. Parce que tout va dépendre de la culture de la personne qui va lire ça. Et de la façon dont ce sera expliqué. Donc on pourra l'expliquer soit en tirant du côté chinois, soit en tirant du côté Chan.
Moi, je suis mis en appétit par cette explication, surtout si ça, c'est un des éléments fondamentaux du Soto. Donc, ce rapport entre le principe et le phénomène, l'éveil et l'apparence,
est-ce que ça se joue dans les cinq images? Et où se trouve la graduation?
Alors, la graduation, bien sûr, il y en a une. Dans le premier, voilà, c'est ce texte-là qui explique le mieux. Dans le premier, c'est puisqu'il y a un rapport entre l'absolu et les phénomènes, ou entre le prince et le ministre, donc le ministre c'est vous, c'est l'être ordinaire, mais c'est l'être ordinaire qui est déjà en quête. Donc dans sa quête, la première étape s'appelle l'arrivée du partiel qui est dans l'axe. Le centre est blanc.
D'accord, donc il y a l'arrivée.
Donc il y a l'arrivée partielle dans l'absolu. C'est-à-dire que l'esprit ordinaire, se trouve tourné vers sa nature profonde, sa nature réelle, qui commence à l'entrevoir. Donc il y a presque déjà un début d'éveil. Il y a une première prise de conscience, on peut dire, de quelque chose d'autre que ce que l'on perçoit d'ordinaire quand on est pris dans toute la dispersion. La deuxième étape, on dit que c'est le temps qui correspond, ou ce qui est central, qui est là, qui va apparaître dans ce qui est infini. Autrement dit, ce n'est plus l'individu qui se tourne vers la nature d'éveil, mais c'est la nature d'éveil elle-même qui va apparaître dans la personne. Et c'est une apparition qui est considérée comme une apparition, comme une ombre, comme une image. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de saveur, une espèce de goût, une espèce de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance qui n'est pas encore la reconnaissance réelle. Et c'est le début aussi de la prise de conscience qu'il y a un fonctionnement autre que la dualité. C'est-à-dire que toutes les choses sont considérées, sont observées, sans qu'il y ait discrimination, sans qu'il y ait dualité. Et il dit dans ses poèmes, par exemple, « Les montagnes sont des montagnes, l'eau c'est de l'eau, mais personne ne pose un nom, aucun être ne peut comparer. » Donc c'est une vue à la fois claire des choses, mais sans qu'il y ait une distinction duelle qui soit établie. C'est la deuxième étape. La troisième étape, tendons-là, voilà, c'est celle-là. La troisième étape, alors pourquoi c'est tout noir? Parce que là, c'est la troisième étape est appelée ce qui vient dans le temps, dans le correct, dans le sens, ce qui vient de soi-même. Donc pourquoi c'est noir? Parce que c'est cette idée d'indistinction. C'est-à-dire qu'on arrive à un état où toutes les choses ont disparu. Contrairement à l'étape précédente, où on voyait encore comme des ombres, les montagnes, l'eau, etc. Ici, on ne voit plus rien. C'est au fond l'unité totale, c'est l'expérience vraiment beaucoup plus profonde, qui est vraiment proche de l'éveil. Et donc, Tianshan dit tout est pur, dénudé, tout est nu et lavé, le visage apparaît. C'est ce qu'on appelle voir son visage originel dans le Chan. Donc, le visage apparaît. Épuisé le ciel et la terre, je suis le seul vénérable, il n'y a pas d'eux. Donc c'est vraiment, on est vraiment proche de l'éveil. Il n'y a plus cette dualité non plus entre les deux. C'est pour ça qu'il est simplement question du sens, du corail, c'est l'absolu, c'est la nature éveillée qui est là, présente.
Alors c'est noir, c'est plutôt le manger là.
Non, mais non,
pas.
Non, c'est noir.
C'est pas le même symbole.
Non.
Non, non. Le noir ici veut dire autre chose.
Voilà, c'est noir parce que c'est l'indistinction, parce que c'est quelque chose qui.
C'est pas un des deux joueurs d'en haut.
Non, et qui est l'opposé. C'est-à-dire qu'il dit que c'est. Je crois que c'est dans son poème où il dit que cette chose est visible dans la nuit et vous parlez avec. Le quatrième, donc, c'est celui-là. Vous m'appelez arrivé de la filière.
Arrivé de la filière.
Oui, arrivé de ce qui est pied. Simplement. Arriver des choses sans être. Donc ça c'est un état encore au-dessus où il est assez proche, où on approche un peu plus de ce que dit le sutra du cœur, c'est-à-dire on commence à percevoir que tout ce que l'on perçoit par les organes de sens et la vacuité, c'est la même chose. Deux choses qui arrivent donc en même temps. C'est pour ça qu'on parle simplement de l'arrivée dans l'incliné. C'est-à-dire tout ce qui est vécu tel quel, sans qu'il n'y ait plus cette notion de totalité de tel pas. Et la dernière, qui est représenté donc en grisé, donc qui montre bien là-dessus, hein, que c'est ni noir ni blanc, ça s'appelle les deux arrivent en même temps. Donc ça c'est le stade ultime où il n'y a plus de distinction entre la nature profonde et l'aimée, la nature ordinaire, toutes les qualités ont disparu, et c'est la venue simultanée parce que cette idée de simultanéité, c'est aussi une idée de base du subitisme dans le Sanchan. C'est-à-dire, quand on parle d'expérience subite, c'est pas uniquement que c'est quelque chose qui vient d'un seul coup, mais ça veut dire que simultanément, les deux expériences sont là.
Voilà. La coïncidence.
Il y a une coïncidence parfaite entre les deux expériences, et ça, c'est l'état subit. Donc, les deux arrivent en même temps. Alors, ça, c'est une explication très sommaire, parce qu'en fait, cette théorie a donné naissance à toutes sortes d'exégèses, d'explications différentes les unes des autres, à des poèmes, et chacun va expliquer de manière différente ces cinq positions. Il y a. Et alors bon, ce sont des poèmes assez hermétiques. Alors, les cinq stances, donc il y a cinq poèmes de Sanchan Dandi, donc le deuxième.
Le sceau de Soto,
voilà, et qui a écrit des poèmes pour chacun de ces cinq positions. Je vous lis simplement le premier. Qu'un homme du commun puisse être un chancelier, cela n'a rien d'étrange. Après des générations d'ennoblissement, on ne parlera pas de son errance. Bon, alors il faut expliquer. Hein. L'homme du commun est un chancelier, c'est-à-dire que l'homme du commun commence à être quelqu'un d'anobli, de noble, qui va se tourner vers le but spirituel. Donc cela n'a rien d'étrange, c'est normal que quelqu'un se tourne vers cette quête d'éveil. Après des générations d'ennoblissement, on ne parlera pas de son errance. À partir du moment où c'est mis en quête vers ce but, tout le passé est oublié. Et bon, c'est très simpliste comme. Explication, et donc il a à chaque fois un poème.
Donc on voit que, bien que dans l'école subitiste, on prévoit une gradation, une progression de l'approfondissement de la voix, et ça renvoie à cette idée que le subitisme, dans ce sens, c'est pas que ça arrive tout de suite. Et que ça arrive en même temps.
Oui.
Ce qui n'est pas notre habitude de penser.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Mais ça n'empêche que il y a quand même chez ces maîtres Chan beaucoup un essai quand même d'expliquer toute la progression des expériences au cours du Chan et au cours de l'éveil. Ça, c'est quand même, on le voit dans la plupart des écoles d'ailleurs dans le bouddhisme chinois. Ils ont chacun une façon particulière d'expliquer ça.
Ok. Alors...
Mais ils allaient quand même au-delà de cette différence, parce que dans il y a un long poème qui s'appelle Le chant du samadhi du précieux miroir, qui a été écrit par Dongshan Yanzi. Donc le premier, hein, de Dozan.
C'est le samadhi du miroir précieux
au
Kyozan Mai.
Voilà, et il dit à un moment donné, aujourd'hui il y a le subi et le graduel, condition érigée dans notre lignée, dans le Chan, où des divisions sont apparues, mais ce ne sont que des règles. Et donc il critique ces divisions, pour lui, tout cela n'est pas important.
Mais pour lui, il y a du subi. Dans le graduel.
Oui, absolument.
Alors, est-ce que ces explications ont assouvi ta curiosité sur la liaison avec le taoïsme ?
C'est clair, c'est une liaison dynamique, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais surpris que ce soit au 9e siècle qu'il y ait, pour moi, dans mon esprit, c'était qu'il y ait encore des traces apparentes et claires de taoïsme, etc. Alors que c'est, d'après ce que vous disiez, donc c'est.
Bien sûr. Et il y a dans ces textes-là, il y a une influence de ce qu'on appelle en taoïsme la chimie intérieure.
L'alchimie
intérieure, c'est-à-dire toutes ces pratiques de travail, de visualisation, un peu comme dans le bouddhisme tantrique, qui utilisent des images et qui utilisent un langage un peu ésotérique, puisque c'est pour ça qu'on parle d'alchimie. Par exemple, ils vont parler du lièvre de jade, qui est, dans la mythologie chinoise, un animal qui se trouve dans la lune, qui pille l'élixir d'immortalité. Donc, le lièvre de jade va faire référence à la lumière de la lune, c'est-à-dire à une certaine forme de luminosité que peut expérimenter le méditant à une certaine étape. Voilà. Donc ça, il utilise cette image, qui est une image taoïste. Il ne va pas s'en priver.
Taoïste et alchimique.
Taoïste et alchimique. Donc c'est vraiment une interaction constante, parce que, comme je vous l'ai dit, l'alchimie intérieure a emprunté toutes les techniques du bouddhisme Chan pour la méditation, et pour l'idée du fond de l'absolu, de l'éveil, tout à fait ça.
On a l'impression quand même que Dogen, lui, a laissé en Chine On a l'impression que Dogen, lui, a cessé d'employer ces termes-là et ces outils de clarification.
Alors, en fait, c'est pas Dogen, parce que là, avec Dongshan Yanzi et Dongshan Yanzi, avec les deux fondateurs du Soto, on est au 9e siècle. Dogen, il va arriver en Chine en 1223. Donc il y a plus de 2 siècles entre les deux. Pendant ces 2 siècles, le bouddhisme Chan a continué à évoluer. Et alors que du temps de la fondation du Soto, il y avait 5 courants différents, petit à petit, il n'y en a que 2 qui vont rester, le Rinzai et le Soto. Les autres vont continuer, mais n'auront pas la même importance. Et dans cette canalisation du Chan dans ces 2 grands courants, le courant Rinzai est celui qui va insister sur l'idée qu'il faut pratiquer dans le quotidien, en toutes circonstances, dans l'activité, et que c'est une voie qui est ouverte à tout le monde, y compris les laïcs, donc il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps forcément en méditation. Et donc, il va insister sur toutes les méthodes communes du Rinzai, notamment l'utilisation des koans. À côté de ça, l'autre branche qui est issue du Soto va réagir contre l'excès de certains maîtres Rinzai qui vont utiliser les koans de manière lettrée, en jouant sur, de manière littéraire, en faisant des poèmes, en jouant intellectuellement avec ces koans. Et du coup, les représentants du Soto vont dire non. L'expérience vers laquelle nous tendons, l'expérience de l'éveil, est quelque chose qui est ineffable, qui ne peut s'exprimer, qui ne peut se communiquer tel quel. Et à côté donc de ce Rinzai, on a un représentant du Soto qui a utilisé l'expression Mojo Chan, c'est-à-dire le Chan de l'illumination silencieuse. Et donc, il va beaucoup plus insister sur la pratique, beaucoup sur la pratique du chan, la pratique du zazen, que ce soit en position immobile, assise, ou dans la marche.
On appelle, nous, le Mokusho Zen.
Voilà.
Ouais. Et c'est qui a lancé ça?
Alors, c'est un certain Ronje Zhangjue. Voilà, c'est ça.
C'est Wanshi.
Ronje Zhangjue, qui a vécu au XIe siècle. Voilà, le XIe, XIIe siècle, de 1092 à 1157. Donc il y a deux maîtres fondamentaux en Chine. Il y en a un qui s'appelle Darfei Zongga, qui est le représentant de la branche de Rinzai, qui dit qu'il faut donc utiliser les koans, et qui était un personnage important parce qu'il a été précepteur de l'empereur. Pendant toute cette période, pendant ces deux siècles de développement du Chan, les empereurs ont beaucoup fait pour mettre en avant le bouddhisme Chan. Et puis l'autre, donc Ronje Zhangjue, qui lui dit qu'il faut cultiver le chan de l'illumination silencieuse. Mais, contrairement à ce qu'on a dit, ces deux personnages étaient copains. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rivaux, comme ce sera le cas par la suite, mais c'était simplement que, dans leur enseignement, l'un mettait l'accent sur un aspect et l'autre sur un autre aspect. Donc quand...
Ça s'aggrave.
C'est pour ça qu'il faut que le règle... Donc c'est pas une séparation.
Absolument, voilà, absolument. Chemin, ouais. Pour eux, il n'y avait pas de problème. C'était deux grands maîtres, et pour eux, c'était un moyen habile comme un autre. Voilà. Ce qui était dénoncé, c'était les excès, les abus de ceux qui utilisaient de manière un peu dévoyée, au fond, les koans.
Alors c'est qui chez nous, quel nom on lui donne à ce Darfei Zongga?
Darfei Zongga, ah, ça je ne sais pas. Elle n'est pas là, Yoko?
Tu t'es renseigné, c'est pas ce mur-là qui est en train de démolir, non?
Non,
ça
va. Daïe Soko.
C'est ça, Daïe Soko. Daïe Soko, c'est parti de ce concentre le matin,
non? Non, non, non,
C'est un rinzai, bah oui. C'est le rinzai qui était opposé à Ronju Zhangji.
C'est le pote de Wanshi.
Voilà.
Daïe.
Mais alors, lui, il a transmis quand même, il a transmis son enseignement à un japonais qui restait auprès de lui, qui s'appelait Nonin, et qui a aussi, qui a été, je crois, en bagarre après avec les Soto au Japon.
Ah, d'accord.
Oui, oui, oui. Bah, quand Dogen est arrivé en Chine, d'après ce qu'on dit, hein, il serait arrivé à Ningpo, qui est un petit port au sud de Shanghai. Et comme il n'avait pas avec lui ses papiers de moine, on lui aurait interdit le débarquement en Chine et il serait resté plusieurs mois sur son bateau. Et ensuite, donc, il est allé dans le temple où vivaient des disciples de Darfe Tsonga, et il aurait été mal reçu, il s'est plaint à l'empereur, qui lui a donné gain de cause, enfin bon, donc le premier contact avec un disciple d'un disciple de Darfe Tsonga n'a pas été très bon.
Et
Dogen
est allé se plaindre à l'empereur.
Donc il est allé se plaindre à l'empereur qui lui aurait donné gain de cause.
Attends, on en avait tellement entendu parler.
Et
pas forcément des aspects brillants de sa biographie.
Ensuite, il est parti à la recherche d'autres maîtres, et quelques mois plus tard, il est revenu sur la même montagne, en près de Nippo. Nippo, c'est la ville portuaire où il a débarqué, et la montagne. Et trois mois plus tard, le disciple de Darfe Tsonga étant mort, son successeur était un moine Soto. Et donc c'est auprès de ce moine Soto qu'il est resté et qu'il aurait eu l'éveil en 1225.
Donc c'est notre Nyojo.
Alors il s'appelle Jujin.
Jujin.
Tienton Shan. Shan, ça veut dire montagne, et Tienton, c'est le nom de la montagne. Donc ça doit être Tendo San. Voilà.
Ah ouais, donc en fait, Nyojo était simplement venu diriger un monastère qui précédemment était dirigé par un disciple de Daiwi.
Oui, absolument. Tsonga. Absolument. C'est pour ça que ces histoires de courant, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que...
Oui, ils se croisent sans cesse. Oui.
Ça se croise et tout dépend de l'influence des rapports bons ou mauvais avec les empereurs ou avec les dignitaires qui vont mettre en avant telle ou telle figure. Darfe Tsonga, il a été précepteur d'un empereur, donc c'était quelqu'un de très, très élevé, qui avait un grade élevé, qui était respecté... et qui était, je crois, un grand maître. Enfin, je crois que pour lui... c'est par la suite que les rivalités sont devenues un peu plus fortes entre le Rinzai et le Soto, mais sans que ce soit vraiment des rivalités importantes, en tout cas en Chine. C'est beaucoup
voilà,
plus.
C'est ça, parce que vous avez déjà commencé à répondre à une autre question qu'on se posait, c'était justement les évolutions en Chine entre Bodhidharma et Dogen, et puis par la suite. Alors, par la suite, est-ce qu'il y a une évolution différente du Chan et du Zen?
Oui, je ne connais pas le Zen, donc j'ai du mal à répondre à votre question. Ben, je connais très peu, mais je pense que le Chan Soto a été pratiquement sauvé par Dogen et par le fait qu'il s'est développé au Japon, parce qu'en Chine, il va devenir de moins en moins important. Et c'est vraiment l'école Rinzai, et puis les autres écoles, parce que Yunmen, l'école Unmon, elle a toujours continué à exister.
mais sans avoir l'influence qu'a eue l'école Rinzai. Et finalement, dans l'histoire, ce n'est pas vraiment une question d'école, c'est vraiment une question de maître, de renommée du maître, soit pour ses talents réels, soit par ses influences. Voilà.
Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le Chan actuel, où les courants Soto, Rinzai sont toujours en croisement et pour ce qui est du Zen, la séparation semble beaucoup plus nette.
Au Japon. D'ailleurs, ah oui, oui, bien
au
sûr.
Au Japon et même dans notre pratique à nous, on n'a pas de rencontre avec les.
Moi, j'étais en Japon en 1980 et j'ai entendu des rivalités absolument terribles, sanglantes entre moines de monastère et entre courants.
Beaucoup moins dans le Chan actuel.
Bah, dans le Chan actuel, ils ne peuvent pas. Ils sont déjà bien contents de pouvoir pratiquer,
d'exister
encore sous le contrôle du gouvernement. Mais ce qu'ils cherchent tous, c'est à mettre en avant leurs spécificités.
Dans quel but, d'ailleurs? Pour attirer plus de public, pour recevoir plus de subventions, de dons, pour briller en société, c'est quoi l'idée?
Non, c'est un but de reconnaissance, d'une part, par rapport à l'histoire. C'est une façon de cimenter un groupe, parce que le Chan national, c'était trop grand. Donc, comme ça s'est toujours passé d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que les communautés se formaient autour d'un maître, autour d'un lieu. Et on retrouve aussi cette omnubilation du chinois de former des lignées, toutes les transmissions. L'idée de transmission est importante.
Donc c'est un peu un maître, un lieu, un style.
Voilà.
Et il faut que notre style soit différent du style des autres.
Pas forcément. Pas forcément. Mais par exemple, le moine que je connais très bien, puisque c'était un disciple de mon maître, qui a repris le monastère de Dongshan, au Jiangxi, et il est évident qu'il va enseigner ce qu'enseignait notre maître, c'est-à-dire un chan simple, où lui prenait les sutras de base du bouddhisme. Donc il y avait le sutra diamant, le sutra du cœur, l'Ankavatara sutra, le Jurangama sutra, le sutra de la Vatara, les grands bouddhismes. En fait, il nous donnait une culture générale sur le bouddhisme du grand véhicule. Mais comme c'est à Dongshan, évidemment qu'il va enseigner en plus les textes de Dongshan. Voilà, pour garder au moins cette mémoire, cette continuation de l'esprit et de la. Des avantages de tel maître, de ce maître-là. Ça n'empêche qu'il invitera, pour faire des conférences ou pour diriger des séchines, des maîtres d'autres monastères qui vont venir et puis qui vont faire leur propre enseignement. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est quand même un bouddhisme chan modernisé, où les enseignements des maîtres sont beaucoup des enseignements de base sur comment bien se comporter, des conseils éthiques, des conseils de vie en société, des réponses de base sur les souffrances, la plus grand chose de toute cette période du Chan d'autrefois. C'est quand même assez plus simplifié.
Ouais.
D'une manière générale, à côté de cela, il y a des grands érudits.
Oui, c'est auprès des érudits que se retrouve le goût originel du Chan, en fait.
Oui.
Très bien. Proposition.
Il est 4h05. Est-ce qu'on pourrait entrer dans une partie de nos échanges qui porte sur la naissance du Soto à l'époque? Il y avait plusieurs courants. Alors, qu'est-ce qui fait que le Soto est apparu? Pourquoi il est apparu? Quelle était sa différence avec les autres? Quelle était sa place dans le paysage au moment de son apparition? On a vu les cinq dessins qui semblent être un élément spécifique au Soto. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on a repéré rendu repérable, visible, une tendance nouvelle dans le courant du Chan?
Bah, pas grand-chose.
Très chinois.
Pas grand-chose. Comment je peux faire, là? Ben, on peut peut-être passer au diaporama, alors. Voilà.
Je propose de vous rapprocher. Entre les deux, il était à la limite,
hein, puisqu'il s'en garantissait déjà les cinq dynasties. Et il y a, à mon avis, deux éléments importants hein, qui vont aider à ce redécoupage de l'histoire du Shan. Le premier élément, c'est qu'en 1845, il y a eu en Chine une grande proscription du bouddhisme. Et que c'est à ce moment-là que des maîtres comme Rinzai ou comme Sutta, etc., sont à la pente de la scène. Et c'est ce qui explique aussi peut-être leur iconoclasme, le fait qu'ils ont développé des aspects du Chan qui laissent tout à fait de côté tous les aspects religieux. Et cela, ajouté au lien excellent qu'ils entretenaient avec les empereurs, a fait que ça s'est développé. Donc pourquoi, après, les deux autres écoles sont apparues? Eh bien, parce que les maîtres étaient les précepteurs d'un des souverains de ces royaumes. S'ils n'avaient pas été soutenus par ces souverains, peut-être qu'ils n'auraient pas eu ces écoles.
Il faut sentir qu'ils allaient les enseigner, ils leur apprenaient à lire, à compter.
Non, je ne suis pas directeur dans le bouddhisme.
D'accord, donc des maîtres
spirituels. Maîtres spirituels, absolument.
Et ils étaient invités par les empereurs.
En général, ils vivaient à la cour, ou bien dans leur monastère, enfin, ils avaient une vie quand même. Donc voilà, donc ça c'est un des éléments qui fait que ces écoles sont apparues. Et
donc c'est purement pratico-pratique, c'est politique plus que
c'est politique et économique plus que métaphysique. Ouais. Alors après, chaque maître a développé son style. Et il y a des styles qui ont plu, comme il y a dans les modèles, des modèles, qui ont plus de charisme. Et là, c'est la même chose pour ces écoles. Donc, chaque école a eu un peu sa spécificité.
Et chaque maître affirmant des choses, je vais dire, ses propres lectures de la littérature bouddhique, développe le style à partir de ça.
Voilà. Donc, ça, c'est une carte d'apprendre à ce tiers-ci. Et donc, là, bien sûr, avec son temps, ici, en fait, c'est la capitale de la province. Donc, Fanny avait son temple ici, et le Shaoshan avait son temple ici. Matsu avait son temple là. Ici, c'est le Shaoshan, ça c'est vraiment la province dans laquelle il y avait un grand nombre de maîtres.
Ils étaient dans un mouchoir de poche, vu d'ici, bien que là-bas, ça va faire 1000 km entre deux villes.
Non, là, ça fait 450 km du nord au sud.
D'accord.
Non, c'est pas un mouchoir de poche. Alors, la première école qui s'est formée, donc, de ces cinq écoles, c'est l'école Weiyan, Igyo, hein, qui est dans la lignée de Mazu, et qui est caractérisée, elle, par son style pédagogique et l'utilisation de moyens d'enseignement autres que la parole. Donc, c'est tous ces actes, comme donner un coup de pied dans un pot, quand un maître pose une question, l'emploi de la figure, du cercle pour démontrer l'absolu, etc. Enfin, donc c'est une des premières, la première école, en fait, dans le Chan, dans chaque école, a utilisé ces moyens qui vont être encore développés plus par Rinzai. Je pense que vous connaissez les prix, les coups de bâton, sur tout point d'appui, et un iconoclasme qui est quand même assez caractéristique, et à mon avis aussi une des raisons pour lesquelles il a pu survivre à la grande proscription. Donc l'école Shoto, elle se caractérise donc par le fait que, en tout cas, la pratique de la méditation et l'attention très fine dont Jean Yandier était appelé le paysan, était comparé à un paysan qui s'occupe avec soin de son champ, parce que c'est aussi une caractéristique du sauté. L'attention au moindre détail, aux moindres choses dans l'acte, dans le comportement, c'est aussi une des caractéristiques de cette école.
Ça, on la trouve encore aujourd'hui.
En école de Yunmen, Unmo, donc qui est postérieure, okay, et bien qu'il soit dans la lignée de l'école Shoto, enfin dans la même lignée de maître à disciple, latinisé les chorales. Et la dernière école, donc l'école païenne, qui elle se caractérise par un syncrétisme, c'est-à-dire qu'elle a, peut-être pas un syncrétisme, enfin l'assimilation d'éléments d'autres écoles du bouddhisme, comme des éléments de l'école de la terre pure ou de l'école de, du royaume. Bon, voilà, ça c'est le Dongshan, hein, donc le temple que j'ai visité à l'automne, de Dongshan Yongjie, donc c'est l'entrée. Ça c'est l'ancien bâtiment. Et voilà, un nouveau bâtiment qui vient de construire. Et il y a déjà eu des délégations japonaises qui sont venues, des accords qui sont passés pour que les Japonais puissent venir en pèlerinage dans cette école. Ça, c'est la salle de méditation actuelle. C'est toute petite, bien sûr, c'est la salle provisoire, mais une salle beaucoup plus grande est en construction.
On trouve les tanes, alors, c'est ça, les espaces, ouais, les tanes.
Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Non, c'est au Japon que ça s'appelle.
Dans tous les cinq temples, c'est comme ça. Il y a des...
Et il n'y a pas des arcs plus gros, des choses comme ça, c'est...
Ah non, non, non. Non.
Dans une espèce de coussin à
Il y a un premier coussin pour se mettre qui est très, très mince. Ouais, oui. Il y a un deuxième pour surélever légèrement le postérieur, mais très peu. Très peu. Ouais.
Ça, c'est une couverture, on dirait.
Alors, oui, été comme hiver, on se recouvre toujours les jambes d'une couverture parce que les articulations, et notamment les articulations des genoux, sont, pour la médecine chinoise, vraiment des portes d'entrée du vent, de toutes les choses. Il faut toujours se couvrir, d'autant plus que très souvent, au cours de la méditation, on peut avoir des suées très importantes. Et donc, il y a toujours deux choses. Une sorte de serviette pour se couvrir les jambes et très souvent, sur les épaules.
Là, je vois qu'il y a une bouteille d'eau, c'est un peu pendant la...
Ça sont les tombes donc des maîtres de Soto depuis trois siècles. Et ça, c'est la tombe de Dongshan Yongjie.
Donc Tozan.
Tozan, voilà.
Proprement Shanzen. Voilà, je vois tout. voir que même à l'origine, dans l'école Soto, ce soin du détail était une caractéristique.
Oui, mais une différence qui me semble quand même peut-être plus japonaise, c'est qu'il y a cette structure de la minutie est quand même beaucoup plus marquée que dans le chan chinois, où il y a ce côté liberté, spontanéité qui est finalement plus important qui peut être plus important que l'observance des règles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une discipline très stricte. Et notamment pendant les périodes de 7 jours, la discipline est vraiment observée de manière très rigoureuse et très précise. Mais sinon, dans de ça, c'est quand même plus spontané, plus libre.
Plus créateur.
Plus créateur, je dirais pas ça, j'en sais rien, parce que ce carcan, en fait, du japonais peut être créateur aussi. C'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. Mais en Chine, c'est beaucoup plus par le spontané.
Je ne pense pas qu'en Chine, quand il n'y a pas, dans les orientés japonais, il y a 60 gestes.
C'est même le contraire, parce que encore à l'heure actuelle, les maîtres ont beaucoup adapté leur enseignement à la personnalité de la personne. Cette méthode, on peut dire, de déstabilisation du paradoxe, qui est utilisée sans être institutionnalisée, mais qui est utilisée quand même dans l'enseignement, qui joue encore un rôle assez important. Mais bon, à l'heure actuelle, ça reste quand même très, très simple.
Je peux revenir un peu à l'histoire, s'il vous plaît.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez parlé de la démolition. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 périodes de démolition des temples. La période Chang des Tang, pardon, à peu près.
Oui, alors ce sont les proscriptions du bouddhisme. Voilà.
Alors, quelle était l'idée? Qu'est-ce qui gênait?
Alors, il y a eu une première proscription en 486. Hein, et puis une autre sous les Tang en 845. Et ce qui gênait, c'était les aspects économiques. Parce que les moines étaient exempts de taxes et de corvées, ils avaient des esclaves.
Des quoi ?
Des esclaves.
Des esclaves.
Il y avait encore des esclaves, c'est-à-dire des gens qu'on achetait pour travailler, qu'on achetait et qu'on vendait, il y avait encore des esclaves.
Et qu'est-ce que les moines leur faisaient faire ?
Eh bien, ils leur faisaient faire le ménage, ils leur faisaient faire les champs, ils leur faisaient les servir, il y avait des interrupteurs. Oui, oui, oui.
Là, je rapproche le micro, là, parce que.
Ils travaillaient au champ, donc c'était des gens extérieurs qui travaillaient au champ, et tous ces moines, donc tout le monde voulait être moine. Il y a même eu plusieurs fois des édits impériaux pour dire que les moines qui vivaient avec leur famille dans les monastères devaient retourner à la vie laïque. Parce que c'était effectivement un moyen de détourner, bah oui, détourner,
de
ne pas faire service militaire, d'avoir d'être logé, nourri gratuitement.
Donc c'était des raisons économiques, finalement.
Beaucoup. Alors, trois quarts des raisons économiques. Et pas du tout, idéologiques. Et il y a eu un lettré qui s'appelait Han Yu, qui a fait une grande diatribe, on dit anti-bouddhique. Et c'est faux, parce que c'était quelqu'un qui était nourri dans sa pensée, dans ses textes. Il est nourri par le bouddhisme. Mais il a écrit un texte virulent contre toutes les dépenses impériales pour les cérémonies autour de la relique du Bouddha. Et, parce que les empereurs dépensaient des fortunes et des fortunes pour les monastères, pour les cérémonies, etc. Et c'est ça qu'il critique, c'est pas du tout le bouddhisme.
Et justement, donc, cette proscription qui a eu lieu de 842 à 845 a été très rapidement suivie d'un renouveau du bouddhisme. Donc contrairement à ce qu'on dit, c'est une idée fausse, le bouddhisme s'est très vite remis de cette proscription.
Ça fait
et
ménage,
deux ans
en fait,
après...
Hein, c'est une manière de faire le ménage.
C'était une manière de faire le ménage. Et à cette époque, ils ont décidé, bon, il y aura tant de monastères par capitale de province, tant de monastères dans les petites villes, etc., pour limiter, endiguer et faire le ménage, tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu, bon, il y avait déjà des examens pour les moines cérémoniales, mais on vendait les certificats, tous les eunuques ou les hauts fonctionnaires faisaient de l'argent en vendant des certificats. Donc il y avait des faux moines. Ils vendaient les ordinations. Voilà, donc c'était un peu aussi le ménage entre ça.
Les certificats, parce qu'il fallait passer un examen pour pouvoir être admis au monastère.
Ah oui, pour être enregistré. Le bureau des religions, c'est pas nouveau. Dans toute l'histoire de la Chine traditionnelle, il y avait un bureau des religions qui enregistrait le nombre de personnes par monastère, et tous les trois ans, il y avait des cérémonies, un examen, des cérémonies d'ordination, et on inscrivait le nombre de...
Et qu'est-ce qu'on leur faisait passer comme épreuve pour tester ?
Alors, bah, il y avait des épreuves sur certains sutras, enfin, un programme qui était défini. Uh-huh. Oui, bien sûr. Connaissance des sutras.
Eh ben, donc, si on devait passer des examens...
Est-ce que vous pourriez lier ça avec la Sotosho actuelle ou pas, ou pas du tout est-ce qu'on pourrait lier ces pratiques-là, ces examens qui étaient avec ce qui se passe à la Sotosho actuellement?
C'est quoi la Sotosho?
C'est l'organisation institutionnelle du Zen au Japon.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment c'est au Japon.
On va se poser cette question.
Avec Yoko, quand on regardera l'histoire du Zen au Japon, on va être attentif à voir comment ils se sont inspirés du système chinois.
Il y a une formation de 30 ans.
Est-ce qu'il y a un examen pour le Chine?
Ah ben, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, il y a une formation de 3 ans pour les moines et les moniales. Et la formation de 3 ans, donc, elle dépend des instituts bouddhiques. Mais pour l'instant, ils ont une formation générale. Sans distinction d'école. Sauf dans certains monastères, puisque le monastère de femmes que j'ai visité dans le Jiangxi, il y a un institut d'études bouddhiques pour les femmes, et ils insistent beaucoup sur les textes Chan, mais il y a l'enseignement général défini nationalement.
Alors pour ceux qui enseignent, est-ce qu'il y a l'équivalent de ce qu'on connaît nous sous le nom de Shio, certificat de transmission au Japon? Comment ça se manifeste en Chine, le droit d'enseigner à cette époque?
C'est plus que ça. Ce qu'on appelle Shio,
certificat de transmission.
Soit les maîtres, soit des gens qui sont invités dans les instituts d'études bouddhiques.
Mm-hmm. Et ils formalisent ça, parce que dans ce que Dogen rapporte, qu'il a compris de... Du Shisho, enfin c'est comme ça qu'il explique de son maître Nyojo, on prend le sang de la personne, on mélange son sang, on écrit ensemble un arbre généalogique avec ce sang.
Ah bon ?
Pour marquer l'appartenance à une lignée qui remonte jusqu'à Bouddha.
Alors ça je sais pas. Mm-hmm. C'est possible, mais ça je sais pas du tout. Avec le sang, je sais pas.
Oui, il y a un côté très...
Très rituel. Ouais. Très très rituel.
Très chamanique.
Oui. Les frères jurés, comme dans la triade. Ouais. C'est un serment.
Oui, c'est une appartenance, une consanguinité quoi, familiale hein, qui est affirmée par le lien de maître à disciple.
Se fait par le nom. Puisque dans le nom qu'on donne, il y a deux caractères, et en général, le premier caractère indique la génération. C'est-à-dire tous les disciples d'une même génération auront le même premier caractère. Mm-hmm. Donc, il y a trois caractères. Il y a le premier caractère, She, qui veut dire Bouddha, bouddhisme, qui indique que vous êtes bouddhique. Ensuite, le deuxième caractère indique la génération. C'est-à-dire, pour une même génération, on utilise le même. Puis le troisième, bon, il est personnel.
D'accord.
Donc il y a cette, il y a ça, il y a une carte, une attestation qui est donnée de filiation, mais cette filiation elle existe ou elle n'existe pas. C'est-à-dire quand on établit une lignée dans une école, un maître va choisir un disciple. Il va être son successeur. Mais ça n'a pas toujours existé.
C'est apparu quand?
Ben, ça a apparu avec Renan, enfin avec toute cette lignée des premiers patriarches. Et après, Renan, justement, ça s'est un peu dissous, puisqu'il y a eu toutes sortes de... Il y a une multiplicité de lignées. Et dans l'école Soto, par exemple, on a une lignée de maîtres à disciples pour 4 générations, et après, on ne sait plus à qui ça a été transmis. Et c'est au 11e siècle, avec Rongzhe Zhangjie, donc, que, à nouveau, parce que c'était un moine qui avait de fortes personnalités, qu'il a à nouveau fait fleurir l'école Soto, et qu'il y a eu à nouveau transmission de l'école Soto. Puis après, bon, ça a duré pendant 4-5 générations, et puis à nouveau, bon, on ne sait pas qui succède à qui. Il y a plusieurs disciples, et il n'y a pas forcément lignée d'une personne à une personne. Et en général, cette succession ne se faisait pas de manière aussi idéale qu'on le voit dans les koans ou ailleurs. C'est-à-dire que très souvent, c'était le chef adjoint du monastère qui devenait le successeur, ou bien c'était la communauté des moines qui décidait plus ou moins de qui allait succéder au maître si il partait. Ou alors, autre possibilité, c'était l'empereur qui désignait. La cour impériale qui désignait et qui envoyait tel maître dans tel monastère.
D'accord. Donc, suivant les cas, c'était l'institution, c'est-à-dire la fonction,
oui.
Chef adjoint, donc c'est lui.
Oui.
D'autres fois, c'était plus démocratique, c'est
oui.
L'assemblée qui choisit son
représentant. Démocratie relative.
Oui. Et d'autres fois, c'était le pouvoir extérieur qui n'avait rien à voir avec le fonctionnement du monastère qui disait non, c'est lui que je veux.
Oui, ça pouvait être les fidèles aussi qui pouvaient intervenir pour pousser en avant une personne plutôt qu'une autre.
Si on, aujourd'hui on trouve des vides dans les lignées, ça veut dire que les moines ne récitaient pas les lignées dans le temps.
Pas forcément. Non. Mais à l'heure actuelle, il y a dans la liturgie, il y a une récitation de lignées.
Et pourquoi est-ce qu'ils font ces récitations?
Pourquoi
est-ce qu'ils font ces récitations? Quel sens ça a?
Pour se rattacher à telle et telle lignée, pour donner de la force à la transmission.
C'est une forme de légitimité de leur,
oui.
De leur groupe.
Absolument, oui, oui. De même que chaque école va avoir un certain nombre de divinités. À qui on rend hommage dans la liturgie. Mais ces différences sont estompées à l'heure actuelle.
Divinité, quel genre de divinité? Des divinités du fond religieux autochtone? Des
divinités... Parfois, dans les petits monastères des lieux plus reculés, ça peut être des divinités autochtones. En général, c'est surtout un choix entre Manjushri, Guan Yin, enfin les grands bodhisattvas qui sont... Bon, pour le Kegon, pour la Madame Saka, Manjushri est important, Samantabhadra est important. Pour d'autres, ce sera plutôt Guan Yin, Kanon, etc.
Ok. Il est 16h35. On peut avoir le temps pour quelques questions complémentaires. Pour ceux qui ont été un peu plus loin des échanges et du débat, là, ça peut être votre moment.
Une petite question, mais après les autres personnes. Bon, alors j'y vais. Je vous appelle, je crois, ne pas vous avoir entendu trop parler de Tendai.
Tendai,
oui. Pourtant, Dogen a été formé dans
le Tendai.
Et Tendai, il y a quand même au Japon actuellement, de rivalité, mais des grands pôles de rivalité, c'est Tendai et
puisque Dogen a quitté le mont Yehan, qui était
Tendai, justement, mécontent apparemment.
Oui.
Et ben, cette école est aussi très présente en Chine, notamment à l'époque des Song, c'est-à-dire à l'époque où l'école Soto commence à nouveau à se développer. Il y a l'école Tendai et l'école Kegon qui sont, oui, avec le Chan, les trois écoles fondamentales, plus la Terre pure, hein, sont les trois écoles fondamentales avec des interactions entre ces écoles. C'est jamais des lignées pures. Par exemple, la dernière des cinq écoles du Chan dont je vous ai parlé, l'école Fayen, je vous ai dit justement qu'elle avait pas fait un syncrétisme, mais qu'elle avait assimilé des éléments d'autres écoles, dont le Tiantai, dans le Tendai, qui était aussi très puissant à cette époque.
Mais donc c'est plutôt après la période que vous avez décrite.
Ah non ?
Le Tendai.
Non, non, le Tendai est apparu en Chine au 5e siècle. Oui, oui, oui. Les premiers maîtres apparaissent au 5e siècle, et c'est une des grandes écoles aussi de l'époque des Tang, entre le 7e et le 10e siècle. C'est une grande école chinoise.
Et leur...
Et il y avait, très souvent, il y avait, par exemple, le 4e patriarche dans la lignée du Chan était très influencé par le Tiantai. Et les maîtres du Tiantai s'appelaient des maîtres de Dhyana, c'est-à-dire des maîtres zen. Puisque maître de Dhyana, en chinois, ça désignait les spécialistes de la pratique de la concentration. Il y avait ça, il y avait ceux qui étaient les spécialistes des préceptes, donc qui enseignaient plus particulièrement les préceptes, et il y avait les spécialistes de la doctrine, c'est-à-dire ceux qui expliquaient les sutras, qui les enseignaient, qui enseignaient l'abhidharma et toute cette doctrine. Donc il y avait un peu une spécialisation des maîtres. Et les maîtres de Dhyana, on les trouve dans l'Avatamsaka, Kegon, Tendai et Chan. Et il y a des interactions entre ces trois écoles, bien sûr. Le maître dont j'ai parlé tout à l'heure, Zongmi, qui a fait des dessins précurseurs de ces cinq positions, c'était à la fois un maître de Kegon et de Chan, et de bouddhisme ésotérique en plus. De toute façon, en Chine, les cloisonnements sont jamais étanches. Sans arrêt, puisqu'un maître pouvait avoir plusieurs maîtres, ça faisait presque partie de la formation d'aller en quête spirituelle auprès des maîtres les plus célèbres. Mais on était inscrit dans la lignée d'un seul maître, d'un maître qu'on reconnaissait comme le maître principal. Ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas reçu un enseignement de bouddhisme tantrique ou autre ailleurs.
Autre question ? Jean-Claude, un mot pour donner ton sentiment.
Très bien.
Ok, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Catherine, merci infiniment pour
merci à vous, c'est très intéressant.
Et puis alors hélas, comme le mode d'avoir des esclaves est passé, il va nous falloir remettre en état la salle nous-mêmes. Alors si vous voulez bien contribuer, on va dispenser Catherine, mais je crois que vous allez devoir tous mettre la main à la place, sauf Antonino qui a joué en matière de l'idée. Merci à tous.
Merci beaucoup.